Voilà, bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année pastorale et pour ces rendez-vous désormais devenus habituels. C'est une année pastorale pas tout à fait comme les autres, puisque, vous le savez, nous sommes dans cette phase qui est l'aboutissement d'une phase qui a commencé le 20 mai 2023 et qui a conduit à ce qui se met en place depuis le 1er septembre 2025, à savoir une réforme globale du diocèse pour nous mettre, et il ne faut pas oublier ça, pour nous mettre toutes et tous, et le diocèse tout entier, y compris dans son organisation, sa manière d'organiser les services, les paroisses, les attentions pastorales diverses, nous mettre en état vraiment d'annoncer l'Évangile, en état de catéchèse, hein, ou d'annonce de la foi. Il y avait eu, vous savez, vous vous rappelez, ce rassemblement à Lourdes, kérigma, et l'Église tout entière est dans cette démarche d'annonce. Le kérigme, c'est cela, c'est le contenu de l'annonce essentielle de la foi. Et donc, nous nous rappelons qui nous sommes lorsque nous sommes l'Église. Et nous sommes l'Église lorsque deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur. Et nous sommes l'Église qui témoigne de lui, qui l'annonce et qui le célèbre, les deux choses. L'Église, c'est la communauté de ceux qui sont rassemblés pour célébrer le Seigneur, célébrer son Seigneur, Créateur et Sauveur, et aussi pour témoigner de lui. Voilà. C'est une urgence. Le pape Saint Jean-Paul II nous avait sensibilisés fortement à, derrière l'expression de nouvelle évangélisation, et reprise depuis par ses successeurs, Benoît XVI et François, et bien sûr maintenant Léon XIV, nous mettre toutes et tous en état d'annonce de l'Évangile, qui est bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors bonne nouvelle dans un monde qui, lui, ne l'est pas tout à fait, comme vous savez. Or, il y a un défi, précisément, à témoigner de l'Évangile, témoigner du Christ, dans le monde, dans la société, et que c'est la mission que le Christ lui a confiée dès les origines. Et alors, on revient à ça. Voilà, on revient, façon de parler. On s'en est jamais éloigné. Mais voilà, il faut réidentifier les affaires et puis regarder si nos façons d'être et de faire sont accordées vraiment à cela, ou s'il y a lieu, comme j'aime le dire souvent, de démonter le campement et puis d'aller un peu plus loin et de replanter la tente pour une période, et puis on redémontera la tente et puis on ira encore un peu plus loin, et puis etc. Parce que nous sommes un peuple de nomades, et que quand on commence à s'installer un peu trop confortablement, un peu trop sûr de nos affaires, on finit par ne compter que sur nous, ou en tout cas plus sur nous que sur le Seigneur lui-même. Alors les circonstances de la vie, souvent, nous poussent à nous rappeler que nous sommes ce peuple de nomades, appelé par son Seigneur à témoigner de lui, à le louer, et à le faire jusqu'à la fin de l'histoire, le jour où le Christ nous introduira dans notre véritable patrie, c'est-à-dire le ciel. Et en cette année jubilaire de l'espérance, c'est vers ce ciel que nos yeux sont invités à se tourner en permanence. Alors voilà, ce n'est pas très confortable, parce qu'on aimerait être installé, sûr de nos affaires, de nos institutions, avoir quelques certitudes, être bien organisé, avoir des sous, avoir des gens pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Et dans notre diocèse, c'est moins le cas que dans d'autres. Et peut-être que ça l'est aussi, enfin je peux vous dire que ça l'est malgré tout, plus aussi que dans d'autres encore. Voilà. On est pauvres. C'est comme ça, et c'est heureux. Et comme je dis parfois à mes frères évêques, je suis heureux d'être évêque d'un diocèse qui est celui de Bernadette et qui, comme elle, est pauvre. Je ne serais pas très à l'aise si notre diocèse était un diocèse bien solide, etc., etc. Je trouve que ça tombe bien, voilà, que le diocèse de Bernadette soit un diocèse comme le nôtre, mais qui nous pousse à être, voilà, à bien réfléchir, à bien nous centrer sur l'essentiel, à bien revenir au cœur. Et c'est ce que nous faisons en diocèse depuis le mois de mai 2023 et qui aboutit donc à ce qui se met en place depuis le 1er septembre dernier. Je présenterai les personnes qui sont avec de nouvelles missions dans le diocèse, dans le courant de ce que je vais dire, mais je voudrais commencer, parce que c'est comme ça que Sœur Eugénie m'a demandé de vous adresser la parole ce matin, par l'homélie du pape Léon XIV prononcée place Saint-Pierre le 28 septembre dernier, à l'occasion du jubilé des catéchistes. Un certain nombre d'entre vous y étaient. Merci pour la photo de famille, là, bien sympathique. Est-ce que vous pouvez, ceux et celles qui étaient à Rome pour le jubilé des catéchistes, vous manifester là? Voilà. Voilà, merci, merci, merci. Il en manque, oui, le groupe était, la photo était plus. Mais personne n'est jaloux, hein. On est heureux vraiment que vous ayez représenté le diocèse et pu vivre ce beau moment de l'année jubilaire à Rome. Chers frères et sœurs, les paroles de Jésus nous révèlent comment Dieu regarde le monde, en tout temps et en tout lieu. Dans l'évangile que nous avons entendu, ses yeux observent un pauvre et un riche. Le pauvre Lazare à la porte du riche qui... Celui qui meurt de faim et celui qui se délecte devant lui. Il voit les vêtements élégants de l'un et les plaies de l'autre léchées par les chiens. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur regarde le cœur des hommes et à travers ses yeux nous reconnaissons un indigent et un indifférent. Lazare est oublié par ceux qui se trouvent devant lui, juste derrière la porte de la maison, mais Dieu est près de lui et se souvient de son nom. L'homme qui vit dans l'abondance, en revanche, est sans nom, car il se perd lui-même en oubliant son prochain. Il est dispersé dans les pensées de son cœur, plein de choses et vide d'amour. Ses biens ne le rendent pas bon. Le récit que nous livre le Christ est malheureusement toujours d'actualité. Aux portes de l'opulence se trouve aujourd'hui la misère de peuples entiers, ravagés par la guerre et l'exploitation. Au fil des siècles, rien ne semble avoir changé. Combien de Lazare meurent face à la cupidité qui oublie la justice, au profit qui piétine la charité, à la richesse aveugle face à la douleur des misérables. Pourtant, l'Évangile assure que les souffrances de Lazare ont une fin. Ces souffrances prennent fin, tout comme les excès du riche, et Dieu rend justice aux deux. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Sans se lasser, l'Église annonce cette parole du Seigneur afin qu'elle convertisse nos cœurs. Chers amis, par une singulière coïncidence, ce même passage de l'Évangile avait été proclamé précisément pendant le jubilé des catéchistes en l'année sainte de la miséricorde. S'adressant aux pèlerins venus à Rome pour cette occasion, le pape François avait souligné que Dieu rachète le monde de tout mal, en donnant sa vie pour notre salut. Son action est le début de notre mission, car elle nous invite à nous donner nous-mêmes pour le bien de tous. Le pape disait aux catéchistes, « Ce centre autour duquel tout tourne, ce cœur palpitant qui donne vie à tout, c'est l'annonce pascale, la première annonce. Le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi. Ressuscité et vivant, il est présent à tes côtés et il t'attend chaque jour. » 25 septembre 2016. Ces paroles nous font réfléchir sur le dialogue entre l'homme riche et Abraham que nous avons entendu dans l'Évangile. Il s'agit d'une supplication que formule le riche pour sauver ses frères et qui devient pour nous un défi. En effet, s'adressant à Abraham, il s'exclame « Si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham lui répond « S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Eh bien, il y a quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Les paroles de l'Écriture ne veulent donc pas nous décevoir ou nous décourager, mais elles éveillent notre conscience. « Écouter Moïse et les prophètes » signifie faire mémoire des commandements et des promesses de Dieu, dont la providence n'abandonne jamais personne. L'Évangile nous annonce que la vie de tout un chacun peut changer, car le Christ est ressuscité d'entre les morts. Cet événement est la vérité qui nous sauve. C'est pourquoi il doit être connu et annoncé. Mais cela ne suffit pas. Il faut l'aimer. C'est cet amour qui nous amène à comprendre l'Évangile, parce qu'il nous transforme en ouvrant notre cœur à la parole de Dieu et au visage du prochain. À ce propos, vous les catéchistes, vous êtes ces disciples de Jésus qui en deviennent les témoins. Le nom du ministère que vous exercez vient du verbe grec « katekrein », qui signifie « instruire à haute voix, faire raisonner ». Cela signifie que le catéchiste est une personne de parole, une parole qu'il prononce avec sa propre vie. C'est pourquoi les premiers catéchistes sont nos parents, ceux qui nous ont parlé les premiers et nous ont appris à parler. Tout comme nous avons appris notre langue maternelle, de la même manière, l'annonce de la foi ne peut être déléguée à d'autres, mais se fait là où nous vivons. Tout d'abord dans nos foyers autour de la table, lorsqu'il y a une voix, un geste, un visage qui conduit au Christ, la famille fait l'expérience de la beauté de l'Évangile. Nous avons tous été éduqués à croire grâce au témoignage de ceux qui ont cru avant nous. Enfants, adolescents, jeunes, puis adultes, et même personnes âgées, les catéchistes nous accompagnent dans la foi en partageant un cheminement constant, comme vous l'avez fait ces jours-ci, à travers ce pèlerinage jubilaire. Cette dynamique concerne toute l'Église. En effet, tandis que le peuple de Dieu engendre des hommes et des femmes à la foi, la perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Vous aurez le texte, citation du Concile Vatican II. Dans cette communion, le catéchisme est le guide de voyage qui nous préserve de l'individualisme et des discordes, parce qu'il atteste la foi de toute l'Église catholique. Chaque fidèle collabore à son œuvre pastorale en écoutant les questions, en partageant les épreuves, en servant le désir de justice et de vérité qui habite la conscience humaine. C'est ainsi que les catéchistes enseignent, c'est-à-dire qu'ils laissent un signe intérieur. Lorsque nous éduquons à la foi, nous ne donnons pas simplement un enseignement, mais nous déposons dans le cœur la parole de vie, afin qu'elle porte des fruits de bonne vie. Au diacre Deo Gratias, qui lui demandait comment être un bon catéchiste, saint Augustin répondit « Raconte-le de manière telle que ton auditeur, en entendant, croit, en croyant, espère, et en espérant, aime. » Chers frères et sœurs, faisons nôtre cette invitation. Rappelons-nous que personne ne donne ce qu'il n'a pas. Si le riche de l'Évangile avait eu de la charité pour Lazare, il aurait fait du bien non seulement aux pauvres, mais aussi à lui-même. Si cet homme sans nom avait eu la foi, Dieu l'aurait sauvé de toute tourmente. De tout tourment, sans doute. C'est son attachement aux richesses mondaines qui lui a fait perdre l'espérance du bien véritable et éternel. Lorsque nous sommes, nous aussi, tentés par la rapacité et l'indifférence, les nombreux Lazares d'aujourd'hui nous rappellent la parole de Jésus, devenant pour nous une catéchèse encore plus efficace en cette année jubilaire, qui est pour tous un temps de conversion et de pardon, d'engagement pour la justice et de recherche sincère de la paix. Vous aurez le texte, hein ? Si vous ne l'avez pas déjà, c'est ça, sœur Eugénie. Le catéchiste est une personne de parole prononcée par sa propre vie. Lorsque j'étais curé de paroisse, à Escalquens et Labège, en banlieue de Toulouse, avec la responsable de la catéchèse, on s'est dit qu'il fallait recruter de nouvelles personnes pour les groupes de caté. Alors on a essayé de repérer dans la communauté des personnes à interpeller. Plutôt que de faire une annonce générale à la fin de la messe le dimanche, mais de repérer des personnes et de les appeler personnellement. Et je me souviens plusieurs fois, mais voilà, je vais donner l'exemple d'une en particulier, la réponse suivante, « Ouh là là, pourquoi moi ?» Plutôt demander à Madame Machin, elle était prof, elle saura faire. Moi, je ne sais pas faire. J'ai dit, vous savez, si on vous a choisi, vous, ce n'est pas parce que vous êtes prof ancienne et, ou en activité, et que c'est d'abord ça qu'on attend de vous. On a pensé à vous parce que vous avez la foi, semble-t-il, et que ça se voit, et que ça fait envie. Et c'est d'abord ça qu'on attend de vous. D'être une personne qui a la foi, et qui, dans la manière d'être catéchiste, avec ceux qui vous seront confiés, eh bien vous transmettiez votre amour de Jésus, une manière d'être avec lui, de le mettre au cœur de votre vie, de vous adresser à lui un peu spontanément. Je me souviens, quand j'étais gamin moi-même, le cathé, c'était une dame qui faisait le cathé les années, et puis le curé la dernière année. Et il nous avait raconté ceci, qu'un jeune de mon âge, il le voyait depuis son presbytère tous les samedis aller à l'église, l'après-midi. Bon, un samedi, puis un autre samedi, puis encore un troisième samedi. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à l'église ? Encore des bêtises. Alors après son départ, il y va, il regarde, non, les cierges étaient là, il n'y avait pas eu de début d'incendie, rien. Bon. Alors il décide de l'intercepter à la sortie le samedi suivant. Et lui, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église ? Un peu bourru. Ben, je vais prier. Ah ! Et qu'est-ce que tu dis à Jésus ? Mais aujourd'hui, j'ai dit, on vient de gagner, 2-0. Mettre Jésus au cœur de sa vie. C'est ce que vous faites, chère madame, c'est pour ça qu'on pense à vous d'abord. Le reste, il y a des formations, il y a des réunions, il y a des sessions, il y a des manuels, il y a des méthodes, tout ça, on vous aidera, on vous l'apprendra, pas un problème. Mais ce n'est pas ça qui est premier. Ce qui est premier, c'est d'abord que le catéchiste est une personne de parole prononcée avec sa propre vie, dit le pape dans cette homélie. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à cette expérience-là. Deuxième élément repéré dans l'homélie, c'est ce passage dans lequel le pape dit que le catéchiste, par son ministère de catéchiste, il parle de ministère. Je ne sais pas si vous avez repéré le terme. C'est un terme fort. Un ministère. Officiellement, dans le droit de l'Église et sa pratique, il y a deux types de ministères, des ministères ordonnés, évêques, prêtres, diacres, et des ministères institués. C'est des laïcs qui sont institués pour trois types de ministères. Le ministère de la parole, le lectorat, le ministère du service de l'autel et de la prière communautaire, l'acolita. Le 8 septembre dernier, j'ai conféré ces ministères à Corentin Laguens, qui chemine vers l'ordination. Jusqu'à présent, ces ministères institués étaient réservés à ceux qui se préparaient à devenir diacre ou prêtre, et le pape François a souhaité élargir ces ministères, qui sont des ministères de laïcs, pas seulement à ces laïcs qui se préparent à recevoir une ordination, mais à des laïcs, hommes et femmes, et ça c'est nouveau, qui, dans l'Église, sont repérés pour particulièrement servir l'annonce de la parole ou servir la prière de leurs frères. Donc les évêques sont invités dans les diocèses à appeler des personnes à qui conférer ces ministères. Et par la même occasion, il a créé un troisième ministère institué. Et là, il peut y avoir une confusion dans la manière de l'appeler. C'est le ministère de catéchiste, mais qui n'a rien à voir avec vous. Rien. Ces catéchistes sont ceux qu'on appelle catéchistes, catéchita, dans certaines cultures, etc., etc., dans les pays de mission, notamment en Afrique et en Amérique latine, d'où venait le pape François. Et ça désigne ces personnes qui, formées par le diocèse et envoyées en mission par le diocèse pour un temps déterminé, exerce la responsabilité, le ministère, de conduire une communauté chrétienne. Il n'y a pas de curé. On est en Amazonie. On est au Pérou. J'ai un confrère, un ami prêtre du diocèse d'Albi qui a vécu 9 ans au Pérou dans ces conditions-là. Depuis la conquête espagnole et la première évangélisation, la région de l'Altiplano, la cordillère des Andes, où il était nommé curé, il a été le premier curé de cette région-là. Jusque-là, le curé venait d'une contrée lointaine, à des heures et des heures de route de là, de ce coin-là. Et la communauté des chrétiens là, installée là depuis les Espagnols, vivait sous la conduite d'un laïc formé et nommé par l'évêque pour enterrer les gens, préparer les gens au baptême, au mariage, etc., etc. Et quand une fois par an le prêtre passe, il lui donne la liste des gens qu'il a mis au cimetière pour que la messe soit célébrée à leur intention. Il présente tout ce qu'il a préparé au baptême, tous les couples qu'il a préparés au mariage, et le curé reste là 2-3 jours et en avale la musique. Voilà. Les catéchistes, c'est dans ce contexte-là, c'est ces personnes qui conduisent la communauté, qui sonnent la cloche le dimanche pour qu'elles se réunissent et partagent la parole de Dieu. Il n'y a pas de réserve eucharistique dans laquelle ils puisent dimanche après dimanche. Non. Il y a l'eucharistie quand il y a un prêtre qui passe pour célébrer la messe. Mais la communauté se rassemble, célèbre le dimanche, autour de la parole de Dieu, de la prière, etc., etc. Et donc, il a décidé que désormais, cette fonction donnée à temps déterminé à des personnes formées dans certaines diocèses devenait un ministère institué, ça veut dire reçu à vie, homme ou femme, et pour l'Église universelle. 6 mois après avoir pris ces dispositions-là, créer ce ministère et puis les dispositions hommes et femmes pour les autres. 6 mois après, les évêques en France et ailleurs ont recevé une lettre du Saint-Siège pour dire « Bon, alors vous en êtes tout dans la mise en œuvre de ces nouveaux ministères ?» Ça veut dire qu'ils ont vraiment l'intention qu'on avance sur le sujet. Alors ça nous a provoqué à nous mettre à y réfléchir, à travailler entre nous, élaborer un document de repères pastoraux, etc., etc. Vous en entendrez parler. Mais quand vous entendrez parler du ministère de catéchiste, ne pensez pas à vous, ça n'a rien à voir. C'est pas, le terme est un faux ami, comme on dit quand on apprend l'anglais, ou une autre langue. Voilà. Mais dans l'homélie, le pape parle quand même de ministère pour vous. Alors, ce n'est pas un ministère ordonné, ce n'est pas un ministère institué, mais c'est le terme générique qui désigne le service d'Église que vous accomplissez. Ce service que vous accomplissez. Et ce service, il le décrit en disant qu'il consiste à déposer dans le cœur une parole de vie. Déposer dans le cœur des enfants, des jeunes, une parole de vie. Déposer dans le cœur une parole de vie. Et cette parole de vie, ce n'est pas celle qui sort de votre cerveau et de votre science, transmettant des connaissances à des enfants, parce que ça, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour transmettre des connaissances. Je me souviens d'un pèlerinage en Terre Sainte, le guide juif qui accompagnait le groupe avait une connaissance parfaite de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et de la théologie chrétienne, mais parfaite. Sauf que lui était un parfait païen, qui n'avait absolument pas la foi, ni juive, ni chrétienne. Mais les gens du groupe étaient tellement épatés par sa connaissance et de la Bible et du contenu de la foi des chrétiens, à laquelle ils n'adhéraient pas. Mais ils savaient intellectuellement ce que croient les chrétiens. Et ils savaient l'exposé, les dogmes, tout ça. Bon. Qui disaient, c'est pas possible, c'est pas un croyant. Ben, si, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour avoir des connaissances sur Dieu et la théologie et l'Église et tout ça. Mais être catéchiste, ce n'est pas transmettre simplement des connaissances. Ce n'est pas déverser dans la tête des enfants ce qui est dans la mienne, ce que j'ai appris, et qu'on me dit d'enseigner. C'est pour ça que ce n'est pas la tâche d'enseignant qui est d'abord première. Mais déposer dans le cœur une parole de vie. Ça veut dire accueillir déjà pour soi cette parole comme une parole de vie, c'est la parole de Dieu, qui me donne vie à moi. Et contribuer à déposer dans le cœur des enfants cette parole de vie. Déposer, l'image est belle, déposer dans le cœur une parole de vie. C'est croire que cette parole est une parole qui donne vie, qui fait vivre, qui donne sens, qui redonne de l'espérance, qui donne de l'enthousiasme pour avancer, conduire sa vie. C'est une parole qui a cet effet-là. Et ma mission, mon ministère, mon service de catéchiste, c'est de contribuer à déposer dans le cœur cette parole de vie. Ça veut dire que les parcours de catéchèse, depuis des décennies maintenant, sont très très attentifs à bien revenir sur d'abord la parole de Dieu, partir de la parole de Dieu, mettre en contact le plus possible avec la parole de Dieu, et pas simplement des leçons et des connaissances. Quand Bernadette à Lourdes, elle va faire le catéchisme chez les sœurs de Nevers, bien, elle le fait à la façon dont on faisait autrefois, question-réponse, et c'est l'acquisition de connaissances sur Dieu. Et quand la sœur lui demande « qu'est-ce que Dieu ?», il y avait une réponse officielle dans le catéchisme qu'il fallait apprendre par cœur, et elle, il n'y a rien qui restait dans sa tête. Bon, alors elle répond « Dieu est amour ». Elle a tout compris. Mais la sœur, elle dit « c'est tout ?» Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, parce que ce n'était pas la réponse officielle du catéchisme. Déposer dans le cœur une parole de vie. Et j'aime beaucoup la citation de saint Augustin. Entendre provoque le fait de croire, croire provoque le fait d'espérer, et espérer provoque l'amour, le fait d'aimer. C'est magnifique. Hein, vous aurez le texte. Troisième chose que dit le pape dans cette homélie, personne ne donne ce qu'il n'a pas. Enfin, il dit plus que ça, mais c'est la troisième chose que moi je retiens. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Alors ça va très très loin, parce que c'est une exigence pour nous. Quand on est catéchiste, on est au service d'enfants, de jeunes, de leur famille aussi, de leurs parents, qui nous les confient. Alors vous avez entendu, dans l'homélie, le pape insiste beaucoup hein, pour dire que les parents, la famille, c'est la première catéchèse, le premier lieu. Mais quand, voilà, on connaît bien les réalités hein, de chez nous et d'ailleurs, et le pape ne les ignore pas non plus, rassurez-vous. Ou quelquefois, ben voilà. Mais à minima, les parents ont inscrit leurs enfants au caté et nous les confient parce qu'ils se sentent un peu démunis. Je crois que c'est très très important, et je sais que vous y êtes attentifs, les uns et les autres, d'embarquer les parents dans l'aventure le plus possible, de les associer à la catéchèse de leurs enfants. Et quelquefois, la catéchèse des enfants, c'est aussi la catéchèse des parents. C'est donc une responsabilité importante pour vous. C'est une charge d'âme, un prendre soin de nos frères, petits et de leurs parents, et sœurs, et la conscience de cette responsabilité nous tire vers le haut. Si on n'était que nous-mêmes, bien sûr, on sait qu'il faut fréquenter la parole de Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut faire tel ou tel effort pour être en cohérence avec ce que l'on croit. Mais quand on le fait, enfin, quand en plus on a la responsabilité d'autres, alors, si vous êtes parent de vos enfants ou petits-enfants, catéchiste a fortiori pour ceux qui vous sont confiés, eh bien, ça redouble cette exigence. La conscience de devoir soi-même être en cohérence avec ce que l'on propose, avec cette parole de vie que l'on ambitionne de déposer dans le cœur des enfants, parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Ce n'est pas d'abord une transmission de connaissances qu'il s'agit de servir, mais réellement de déposer cette parole de vie dans le cœur des enfants. Et pour ça, il faut l'avoir accueillie soi-même pour soi. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, qu'on est plus saint que les autres, qu'on est plus parfait que les autres. Non. Ce n'est pas la prétention de l'Église. Lorsqu'elle prêche et qu'elle annonce l'Évangile, elle n'annonce pas sa perfection ou sa supériorité ou sa sainteté prétendue plus grande que celle à qui elle s'adresse. Celle de ceux à qui elle s'adresse. Quand je dis ça, je pense à une expérience que j'ai faite au séminaire à Toulouse. au moment où les abus sexuels commis par des prêtres ont commencé à être révélés, à faire scandale. C'était année 2000. Ça avait commencé un peu avant, mais personne n'y faisait trop attention. Mais en 2000, ça a un peu explosé. Et là, les séminaristes, dont moi j'étais formateur au séminaire à Toulouse, les séminaristes revenaient des paroisses où le week-end, ils allaient pour apprendre le métier sur le terrain auprès de communautés chrétiennes et de prêtres. Ils revenaient au séminaire de plus en plus tristes. Et ils s'en confiaient à leur père spirituel et ça remontait au conseil que les séminaristes sont troublés par ce nouveau contexte et qu'ils sentent que des choses changent dans le regard des parents cathés ou de ceux qui demandent le baptême de leurs petits. Commencent à les regarder un peu avec défiance, en se disant, ben après tout, peut-être que toi, on te trouve très très sympa, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? Est-ce que demain, on n'apprendra pas que ceci ou que cela? Bon. Et donc, il y avait deux types de réactions chez les séminaristes. Premier type de réaction, oh, il y en a marre, les journalistes, il faudrait qu'ils aillent voir dans le monde sportif et qu'ils aillent voir dans les écoles publiques, c'est pas mieux, etc. Bon. Alors, premier type de réaction. Deuxième type de réaction, pétrifié. On n'ose plus dire quoi que ce soit, annoncer quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, et du coup, de quel droit est-ce que je vais leur faire la leçon, en gros. Comme supérieur, j'ai fait une petite conférence, je me souviens, pour dire les deux attitudes ne conviennent pas. Ni l'une, ni l'autre. La première, oh les méchants journalistes qui s'intéressent à l'Église plus qu'aux autres, d'abord parce qu'ils n'inventent pas malheureusement ce dont ils parlent, et que dans l'affaire, s'il y a des victimes, ce n'est pas d'abord nous. Donc, restons calmes. Et faisons bien ce qu'on a à faire, tenons compte de ce qui est... Voilà, de ce qui nous est renvoyé, d'une réalité qui ne convient pas, hein, on est bien d'accord. Équipons-nous pour faire en sorte de faire mieux, de pas... Voilà. Mais arrêtons de dire que les victimes, c'est nous, et que les journalistes sont méchants, et etc. Même si c'est vrai, il ne faut pas le dire. Ce n'est pas juste. Parce qu'il y a quand même d'autres victimes réelles, qui ne sont pas inventées, et qui ne supporteraient pas qu'on se passe, présente nous comme des victimes d'un mauvais traitement de la part des journalistes. Bon. Et aux autres pétrifiés qui n'osaient plus prendre la parole et dire quoi que ce soit, je leur dis ça ne va pas non plus. Parce que ça veut dire que si on prêche, si on fait du caté, si on fait des conférences, selon votre manière de réagir là aujourd'hui ou... Ça veut dire qu'on s'estime supérieur aux autres et que c'est au nom de cette supériorité qu'on se sent légitime pour enseigner. Ben, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la doctrine de l'Église. L'Église dit d'elle-même qu'elle est un peuple de pécheurs qui accueille la parole de vérité de Dieu, qui accepte de se mettre elle-même sur un chemin de conversion, mais que cette parole est un trésor porté par des vases d'argile, mais un trésor qui est fait pour être proposé. C'est Dieu qu'on offre, c'est pas nous. On ne peut pas tous dire comme saint Paul, prenez-moi un exemple. Et donc, il faut d'entrée de jeu se situer toujours avec beaucoup d'humilité. Se situer d'entrée de jeu comme nous-mêmes, des gens qui sont en pèlerinage, des gens qui sont en transformation, en conversion, et donc qui ont besoin du pardon de Dieu, etc., etc., et que ce n'est pas du haut de notre supériorité qu'on enseigne les autres. Mais c'est du haut de l'accueil de ce trésor qui est un trésor fait pour être partagé. Et ensemble, on n'est pas un face à l'autre, maître-élève, mais ensemble, on est compagnon d'Emmaüs, côte à côte, regardant dans la même direction et cheminant vers le ciel. Ensemble, sauf qu'il y en a un qui est un peu plus aîné que l'autre, un peu plus grand frère que l'autre, et qui va prendre l'autre en compagnonnage de route. Mais pas parce qu'on est meilleur. Parce qu'on a juste un peu plus d'avance, quoi, c'est tout. Vous voyez la nuance ? Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Et donc, accueillons cette parole pour nous. Elle nous met en conversion, elle nous met en chantier. Et ne prétendons pas être supérieurs aux autres avec une certaine... Bon. Et si on nous renvoie que, ben, on n'est pas... En effet, on n'est pas meilleur que les autres, eh ben, il ne faut pas, pour autant, se sentir muselé par ça. C'est ce qu'on se dit ces jours-ci avec les responsables de l'enseignement catholique, parce que la campagne qui est menée vraiment contre l'école catholique actuellement veut provoquer ça. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, peut-être même pire, et donc taisez-vous, disparaissez. Eh bien non. Il faut reconnaître, quand il y a des dysfonctionnements ou des défaillances, qu'il y a des dysfonctionnements et des défaillances, il faut le reconnaître, il faut en demander pardon, et on continue d'annoncer le trésor que l'on porte. Et l'enseignement catholique a toute sa place dans le paysage de l'annonce de la foi dans la société aujourd'hui. Comme d'autres lieux, comme la catéchèse. Voilà. Vous voyez, cette humilité, d'une part, mais aussi cette audace d'annoncer Dieu. Ce n'est pas nous qu'on annonce, c'est Dieu. Voilà. Alors, je vous le dis parce que comme catéchiste, face à des parents qui parfois peuvent vous faire des reproches à propos de l'Église, vous savez, hein, bon, quand moi j'étais jeune et catéchiste aussi de mon côté, c'était l'Inquisition, les croisades, tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est passé à quelque chose de plus sérieux, enfin plus récent, on va dire. L'Inquisition et les croisades, c'était sérieux aussi. Mais c'était il y a longtemps. Voilà. Le reste, c'est il y a moins longtemps. C'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est discrédité pour annoncer le trésor qu'on porte dans les vases d'argile que nous sommes et que nous savons être. Alors ne faisons pas les malins, mais ayons l'audace d'en témoigner quand même, quoi. Ça va ? Alors, pour le diocèse. À propos des réformes donc qui sont annoncées, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a tout ce chemin que l'Église fait autour de ce synode voulu par le pape François sur la question de la synodalité dans l'Église. Synodos, chemin ensemble, marcher sur le même chemin ensemble, marcher ensemble. Bon. Synode sur la synodalité, réflexion de toute l'Église sur le fait que l'Église, par essence, par nature, est synodale, c'est-à-dire un peuple de croyants qui marche ensemble. Ce que j'ai dit des catéchistes qui ne sont pas là pour déverser leur science dans la tête des enfants d'abord, mais dans un vis-à-vis, vous voyez, maître-élève, mais dans un compagnonnage chemin d'Emmaüs, eh bien, ça se dit de l'Église tout entière. Dans l'Église, chacun a sa place. Jésus, en fondant l'Église, a établi les 12. Parmi les 12, il a établi Pierre. Saint Paul dit que dans le corps, il y a les membres divers et variés, etc., etc. Mais c'est un seul corps. L'Église, c'est un seul peuple, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Dedans, il y a des fonctions différentes, il y a des ministères différents, il y a des... Bon. Mais c'est ensemble, on marche ensemble. Et ça appartient à la nature profonde de l'Église que de vivre cet ensemble. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut le traduire concrètement dans une manière d'être Église et de faire vivre l'Église. De faire vivre l'Église dans sa mission, de témoigner du Christ, de l'Évangile, mais aussi de s'organiser, de fonctionner, de prendre des décisions, etc., etc. Il y a une manière synodale pour l'évêque qui est le pasteur du diocèse et qui, in fine, signe les nominations. Il y a une manière d'élaborer la décision de nomination. Il n'y a pas si longtemps, l'évêque demandait son avis au vicaire général, éventuellement au conseil épiscopal, puis l'annonçait au prêtre, « Ben voilà, j'ai décidé de vous nommer à tel endroit. » Et comme le prêtre a promis obéissance le jour de son ordination, ben il fait ses valises fin août et il va prendre ses nouveaux quartiers pour y être le 1er septembre. Sans discuter, tout ça, dans une obéissance absolue, parfaite. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça dans les faits, Mais c'est plus comme ça dans les têtes non plus. Plus personne n'accepterait que ça soit comme ça. Ou en tout cas, quand quelqu'un essaye de faire que ça soit comme ça, c'est pas accepté. Ça résiste, ça râle, ça... Bon. Il y a une manière synodale de faire l'Église. Alors, pour tenir compte de cette affaire-là, il y a eu, 20 mai 2023, une grande journée diocésaine, qui était l'ultime restitution des réflexions qu'il y avait eu dans la phase diocésaine du début du synode sur la synodalité. Une centaine d'équipes dans le diocèse s'étaient réunies autour de questions, etc. Bon, une synthèse diocésaine en a été tirée. Et un petit rajout a été fait après le pèlerinage diocésain d'octobre 2022. Et puis là, mai 2023, c'était vraiment la conclusion de la conclusion de cette étape-là. Mais aussi le début d'une autre étape, celle de la réflexion à mener ensemble, en diocèse, chacun à sa place, ses fonctions, son point d'observation de la vie de l'Église et ses avis, ministre ordonné, laïc, consacré, responsable, simple paroissien, tout ce que vous voulez, mouvement, membre d'équipe d'action catholique, et bon, tous se mettre autour de la table, alors localement, dans des paroisses, dans tel mouvement, ou bien de manière diocésaine, dans des journées diocésaines, pour nous mettre en diocèse en état de mission. Vérifier que notre organisation, soit elle correspond à ce qu'il faut, et on ne change pas, soit elle correspond plus tout à fait à ce qu'il faut, et on doit changer. Et ça a été plutôt ça la conclusion. Assez vite, une des conclusions qui s'est imposée, a consisté à dire le statu quo d'une organisation qui a bien marché pendant 150 ans n'est plus tenable. Le statu quo n'est pas tenable. Alors à partir de ce moment-là, il faut faire autrement. Et pour faire autrement, revenons à la nature profonde de ce que l'on est. Et une image que j'ai aimé donner, c'est imaginons qu'on est tous là sur un bateau qui aborde une terre vierge avec comme mission d'y annoncer l'Évangile. Voilà. On touche à cette terre, il y a des gens. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on se donne comme outil en partant de rien? Et ensuite, on remet dans le paysage le fait qu'on ne part pas de rien. Il y a 540 villages avec une église qui sont autant de paroisses. Il y a une cathédrale quelque part, il y a un sanctuaire quelque part, on ne part pas de rien. Il y a tout ça. Mais si on partait de rien, qu'est-ce qu'on mettrait en place comme façon de faire? Et essayons de ne pas partir de nos habitudes qu'on ripolline un peu pour continuer, mais de vérifier, avec un certain nombre de contraintes qui sont là, mais quand même de se redonner de l'élan, quoi. C'était ça un peu la ligne directrice. Alors tout le monde a réfléchi à ça, etc., etc. Entre autres conclusions, alors réforme des paroisses, réforme des services, je vais y revenir, et réforme de la gouvernance du diocèse, les conseils de l'évêque, tout ça, bon, manière de prendre les décisions. Pour les paroisses, il y en a 10. Il y avait 28 ensembles paroissiaux. Désormais, il y a 10 paroisses, bon, vous le savez. La lettre pastorale que je communiquerai pendant le pèlerinage diocésain qui ensuite sera diffusée reviendra sur le début de petites explications qui ont été données fin juin pour annoncer cette affaire-là. Les paroisses, les services. Les services, quand je suis arrivé, je prends l'annuaire du diocèse, on m'explique, il y a 25-30 services diocésains. Mais qui en est responsable? Un certain nombre de services, il y a le nom, service de la catéchèse, sœur Eugénie et une équipe. Service à pastoral des familles, N. Point. Ça veut dire en attente de nomination. Et ça fait longtemps. Oh! Depuis que Bruno Cazenave et sa femme ont arrêté, on n'a pas trouvé de remplaçant et du coup, il n'y a personne. Mais quand il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a plus de service non plus. Alors sur les 25 ou 30, pas de service pastoral des familles, pas de service diocésain pour la pastorale du mariage. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien dans les paroisses. Il se passe dans les paroisses des choses. Dans des paroisses, pas dans toutes. Mais pas de service diocésain qui soutient, qui réunit, qui permet aux gens de légitimement d'échanger leurs expériences, de se donner des bonnes idées, de donner une adresse mail ou un téléphone à un service national pour faire une proposition qui ensuite est relayée. Tout ça disparaît s'il n'y a plus de service. Pas de service des vocations, pas de service de ceci, pas de service de cela. Oh, waouh, ça ne va pas. Parce que quand il n'y a plus le service, ça veut dire que l'attention pastorale portée par ce service, ben, elle n'est plus portée au niveau du diocèse. Au niveau des paroisses, oui, de certaines qui ont les moyens, mais pas de toutes. Bon, alors décision. Alors, pour ça, on regarde un peu comment les autres s'y sont pris aussi. Hein. Bon. Trois pôles de service, en s'appuyant sur les trois fonctions du Christ, de l'Église, etc. L'annonce, un service qui s'appelle annonce de la foi. Le service de la charité, service du frère, la diaconie, et un service de la vie spirituelle et de la formation, de la vie chrétienne, le soutien de la vie des communautés, etc., la vie pastorale, liturgique, sacramentelle, et de la formation. Voilà, trois services. Et nommer trois responsables pour ces services, trois coordonnateurs qui constituent des équipes. Les trois, ils se soutiennent, ils travaillent ensemble, ils prient ensemble, ils réfléchissent ensemble. Chacun, après, est responsable de son pôle. Mais à l'intérieur du pôle, eh bien, il y a des équipes. Mais du coup, toutes les attentions pastorales sont prises en compte. Non plus sur le mode ancien, un responsable, un prêtre accompagnateur, un responsable, un prêtre accompagnateur, un responsable, un prêtre accompagnateur. Et s'il n'y a plus de responsable et de prêtre accompagnateur, il n'y a plus de service. Et personne ne s'en rend vraiment compte qu'il n'y a plus de service. Il a disparu du paysage sans qu'on y fasse trop attention. Mais toutes ces attentions pastorales sont portées à l'intérieur d'un pôle et par les trois coordonnateurs ensemble. Les trois coordonnateurs, il y en a deux qui sont ici et un qui est à Paris. Un premier pôle annonce de la foi. Monsieur Thibault Leblond, qui est là. Voilà, qui nous arrive de Paris avec son épouse. Ils habitent à Lourdes et son épouse travaille pour NCASA à Lourdes. Vous voyez ce que c'est NCASA, hein, l'association NCASA, qui propose à des personnes pauvres une cohabitation dans un immeuble. Et derrière, il y a des tas de gens qui fournissent du temps, de l'argent, des structures, de l'aide, de l'accompagnement pour des papiers, pour de l'alphabétisation, pour tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un beau, beau service de la charité à Lourdes. Et donc, on a demandé à Thibault de prendre en charge ce pôle de annonce de la foi. Là-dedans, la catéchèse, le catéchuménat, la pastorale des jeunes, la pastorale des étudiants, la pastorale des vocations, bon, etc. Tout un tas de domaines dont les attentions pastorales étaient soit assumées. La catéchèse, ça marche. Il y a un service, il y avait un service qui est toujours là. Ça ne change pas. Mais aussi des tas d'autres où c'était plus soit faible, soit inexistant. C'est ce pôle qui se débrouille pour faire vivre toutes ces attentions pastorales. C'est une mise en place. Il y a un mois que ça a démarré. Déjà, il faut identifier l'existant, identifier ce que j'ai dans la tête quand je dis qu'on veut ça. Et puis, se mettre au travail, repérer, etc., etc. Bon. Madame Isabelle Pin, Isabelle, qui est à côté de Monsieur Leblond, voilà, coordonnatrice pour le pôle vie spirituelle, vie chrétienne, pastorale, liturgique, sacramentelle et formation. Voilà. Il y avait autrefois un service de la formation qui assurait ici des formations en faisant venir des profs de Toulouse, de l'Institut catholique, etc., etc. Soit une formation chrétienne de base, soit des formations plus ciblées. Bon, ça avait disparu, eh bien, on demande à Madame Pin de remettre en route ces services de la formation, parce que depuis les expressions synodales, là, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt réclamer. Formation, 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 il faut de la formation. Bon. Soit général, soit ciblé en fonction d'une mission, d'un service. Par exemple, les équipes de funérailles. Par exemple, les animateurs liturgiques. Par exemple, je sais pas, les lecteurs à la messe du dimanche. C'est pas mal d'avoir une formation pour apprendre à lire, à proclamer des textes à la messe du dimanche, etc. etc. Bon, bref. Donc, c'est Madame Pain qui est en charge de ce service, dans lequel il y a aussi la chorale diocésaine, tout ce qui tourne autour de la pastorale sacramentelle. J'aimerais qu'on puisse produire un directoire des sacrements pour harmoniser une façon de préparer à la confirmation dans le diocèse. Vous voyez, soutenir la préparation au baptême, ou que sais-je. Bon. Alors, évidemment, il y a des transversalités, parce que ça touche à la formation, mais ça touche aussi à la première annonce, ou à l'annonce de la foi. Donc, c'est pour ça qu'ils travaillent ensemble. Bon. Et puis le troisième, donc, c'est la diaconie, le service du frère, et c'est le diacre, M. Christophe Manceau, qui est chargé de coordonner cette équipe-là. Et il est à Paris avec ses homologues actuellement pour une rencontre de tous les services diocésains de la diaconie de France. Voilà. Bon, c'est un pari, hein, un investissement et un pari sur l'avenir, qu'il y aura moins d'angles morts dans les attentions pastorales. Bon. Autre chose sur la gouvernance du diocèse. J'ai décidé que, à l'invitation du document final sur le synode de la synodalité, promulgué par le pape François il y a un an maintenant, ou deux, je ne sais plus, un an, nous ferions l'expérience de micro-synodes diocésains régulièrement. Ça veut dire quoi? Nos journées diocésaines, qui sont plébiscitées, la dernière c'était à Lourdes le 7 décembre l'année dernière, d'en faire des journées non seulement de convivialité, de rencontres, où on est heureux de se retrouver, mais aussi de se saisir d'une question pastorale en diocèse, des ateliers, un apport, un peu de fond, et puis des réflexions, et puis des remontées, pour qu'ensuite, le conseil épiscopal, moi, tout ça, on puisse prendre des orientations précises sur un sujet particulier. La catéchèse est une question prioritaire pour une de ces premières rencontres, façon synodale de se retrouver une journée et de se saisir d'une question. Il y a trop peu d'enfants catéchisés dans notre diocèse en regard du nombre d'enfants qu'il y a susceptibles de pouvoir l'être. On est trop, pas vous, hein. J'essaye de ne pas gronder ceux qui sont là de l'absence des autres. Bon. C'est pas vous. Mais je trouve, y compris du côté des prêtres, enfin tous, quoi, globalement, dans notre conscience collective, qu'on est trop indifférent à cet état de fait. C'est comme ça. Eh bien, ça ne va pas. Il faut être missionnaire, il faut proposer la catéchèse. Si on croit que c'est un trésor, ben, il faut oser le faire, quoi. Et y compris inviter les prêtres à, voilà, à se saisir de cette question. Dans la théologie, les prêtres sont normalement, c'est une de leurs trois missions essentielles, la catéchèse, l'annonce de la foi, et notamment la catéchèse. Autrefois, c'est les prêtres, les curés qui faisaient le caté. Puis c'est passé à Sœur Machin, et puis à Madame Truc. Et à partir de là, le curé a dit, mais puisque c'est elle, moi je vais m'occuper ailleurs. Eh bien non. C'est ensemble. Et il faut que le prêtre soit dans le paysage. Et je vois bien dans le diocèse que là où le prêtre s'investit dans la catéchèse, ben, il y a plus d'enfants que là où il ne s'investit pas. Et c'est normal. C'est normal. Donc il faut qu'on se saisisse en diocèse, et je l'ai promis à Sœur Eugénie, il faut qu'on se saisisse en diocèse de cette question de la catéchèse. Et on le fera sur ce mode synodal. Pour que ce ne soit pas seulement une question des spécialistes, le service diocésain de la catéchèse, mais une question de tous, des communautés chrétiennes, qui ne peuvent pas se désintéresser de ce sujet. Voilà, c'est ça un peu la nouvelle méthode qui va se mettre en œuvre. Ça va ? Vous comprenez, hein ? Bon. De même, pour ce qui est du caté, j'insiste, dans la réorganisation des paroisses, pour faire prendre conscience de ce va-et-vient entre ce qui est le cœur pastoral et administratif des nouvelles paroisses, l'endroit où habite le prêtre, où il y a le secrétariat, bon, le cœur de la paroisse. Mais la paroisse, elle est constituée de communautés de proximité. Et le nombre des communautés, il dépend du nombre des chrétiens. S'il y a des chrétiens dans un coin, eh bien, il y a moyen d'y faire une communauté, il faut faire une communauté. Et il ne faut pas tout centraliser là où il y a le curé et le secrétariat. Chaque fois qu'on peut faire vivre une communauté de proximité qui repose sur les chrétiens de ce lieu, eh bien, il faut le faire. Et notamment la catéchèse. S'il y a moyen d'avoir une équipe de cathé quelque part, dans un village ou dans un petit groupement de villages, alors que la paroisse est constituée de cette communauté-là, mais de 15 autres, ou de 25 autres, ou de 50 autres, plus il y a de communautés dans la paroisse, mieux c'est. À condition que toutes ces communautés aient bien le sentiment d'appartenir à une seule et même paroisse. D'où l'intérêt de changer de nom, non pas ensemble paroissial, parce que ça fait ensemble de paroisses, au pluriel, mais paroisse. Il y a une paroisse constituée d'un ensemble de communautés. Mais toutes ces communautés appartiennent à la même paroisse. Et donc, de temps en temps, on veut se rassembler pour avoir le sentiment d'être vraiment paroisse. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre cette proximité qui vit et la paroisse qui vit aussi. Ce n'est pas simplement un centre administratif, la paroisse. C'est une famille. Et une famille de plusieurs membres, mais tous membres de la même famille. Bon, c'est ça, ce modèle-là, qu'on est en train de découvrir ou de mettre en place, en tout cas. Bon, le cathé, plus il est proche de là où les gens habitent, les familles habitent, mieux c'est. La formation des catéchistes, elle est au centre, évidemment. De temps en temps, tous les mois et demi, tous les deux mois, j'en sais rien, il faut trouver le bon rythme, toutes les équipes de cathé peuvent se retrouver au centre pour une célébration commune, pendant l'Avent, pendant le Carême, pendant... Bon. Mais plus la catéchèse, s'il y a une catéchiste disponible et quatre enfants pour faire une équipe, mais il faut le faire en proximité. Parce que si ces quatre, on leur demande de faire 15 km pour aller au centre, ils ne seront plus que deux à l'arrivée. Ou un, ou zéro. Vous voyez la logique, hein ? Bon. L'implication des prêtres, je l'ai noté, j'en ai parlé. Je veux beaucoup ça. Et donc, ben, c'est un travail à faire du côté des rencontres avec eux. Nous mettre toutes et tous, et je terminerai par là, dans un état d'esprit, et c'est le... Je ne sais plus comment il s'appelle ce document, ce n'est pas le directoire, c'est de la catéchèse, vous savez, un document de référence. C'est le directoire ? C'est bien le directoire ? Bon. Qui nous invite à aborder la chose comme un itinéraire catéchuménal. C'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Ça veut dire qu'il y a une découverte de la foi à travers la découverte du Seigneur et d'une relation personnelle avec le Seigneur. Il y a une part d'enseignement, bien sûr. Mais c'est le cœur à cœur que souligne le pape François, le pape Léon XIV dans son homélie. Mais c'est aussi une part de catéchèse pour des catéchumènes qui se préparent à recevoir des sacrements, et puis de catéchèse qu'on appelle mystagogique pour des néophytes après avoir célébré les sacrements. Et on revient dans la logique des tout premiers chrétiens. Vous savez qu'au premier temps de la foi, de l'Église, les catéchumènes qui se préparaient à recevoir le baptême, c'était nécessairement des adultes. Bon, ils étaient initiés sur un minimum d'éléments essentiels avant de pouvoir célébrer les sacrements, le credo, le Notre Père, quelques éléments de base, le kérigme, que reprend le pape Léon dans son homélie, les éléments essentiels. Le Christ est ressuscité, il est ressuscité pour toi, etc. C'est une... Bon, il reprend ça dans son homélie. Le minimum du minimum pour susciter la foi. Est-ce que tu crois ? Oui, je crois. Ben, dis-le-moi. Alors, je crois en Dieu, le Père, tout le monde. Bon. Très bien. Minimum. à ce moment-là, on est admis à rester, participer à la messe, enfin, avec les vieux chrétiens, ceux qui y sont déjà. Jusque-là, on assiste au début, la liturgie de la parole, tout ça, puis on sort au moment de l'Eucharistie à proprement parler, dans les premiers temps de l'Église. Tant qu'on n'est pas initié à l'Eucharistie, on n'assiste pas à l'Eucharistie. Parce qu'on ne peut pas comprendre, parce que c'est donner de la confiture au cochon. C'est l'Évangile. Bon. Donc, les catéchumènes qui sont en désir, mais ils sont préparés, mais tant qu'ils n'ont pas été initiés, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas célébré les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, ils n'assistent pas à la messe. Puis un jour, Pâques, ils sont baptisés, confirmés. Et ils assistent pour la première fois à la messe. C'est la fête. Et après, ils entrent dans une autre période, dite de catéchèse mystagogique, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer les mystères que maintenant ils célèbrent. On ne leur explique pas avant, puis on fait passer des contrôles et des examens pour vérifier qu'ils ont bien compris, et s'ils ont la moyenne, on les admet à célébrer les sacrements. C'est ça notre logique. Notre catéchèse, pendant des décennies, elle a été construite sur ce modèle scolaire. On apprend, on vérifie qu'ils savent. L'évêque passé, il interrogeait les enfants pour vérifier que monsieur le curé leur avait bien transmis ce qu'il fallait apprendre. Et s'ils avaient le niveau, alors on les admettait à célébrer la première communion. Il faut casser cette logique et entrer dans la logique catéchuménale des premiers temps de l'Église, le minimum du minimum avant l'initiation, puis les sacrements de l'initiation, et on continue à expliquer ce que désormais on vit. Catéchèse sur les mystères que désormais on célèbre. Et entrer dans cette nouvelle culture, quoi. C'est ce qui se passe pour les adultes, pour les catéchumènes adultes. Mais quelque part, il faut mettre ça en place. Et les parcours, en principe, sont inspirés de cette façon de faire pour les enfants, mais aussi, derrière les enfants, il y a leurs parents. Voilà. J'arrête, vous avez assez de graines à moudre. Ma sœur, je vous remercie. J'ai oublié de présenter quelqu'un. Monsieur Grégory Ablin. Voilà, Grégory Ablin, qui est le directeur adjoint de l'enseignement catholique pour les deux diocèses d'Auch et Tarbes, Lourdes. Madame Sandrine Simon étant la directrice diocésaine. Il y a un an maintenant, enfin, on y a travaillé pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Quand je suis arrivé, l'enseignement catholique était un peu en crise. Le directeur diocésain avait été licencié juste avant que j'arrive. Et puis il a fallu reconstruire un petit peu déjà de la confiance avec les chefs d'établissement, etc., etc., apaiser les cœurs et tout et tout. Et puis trouver une nouvelle façon de nous organiser, ou la bonne façon de nous organiser. Ça coïncide. Alors, le diocèse d'Auch nous avait prêté sa directrice de l'époque, Madame Bénédicte André-Jacques, pour qu'on ne soit pas en panne. Et puis elle a pris la retraite, et donc les deux diocèses ont réfléchi ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se redote d'une direction pleine, chacun pour soi? Et on a fait le choix de se doter d'une direction révisée dans sa composition pour les deux diocèses. Et c'est quelque chose qui a démarré, qui marche très bien. Madame Simon a démarré il y a un an avec un adjoint, qui, pour des raisons familiales, personnelles, avec son épouse, a dû repartir dans sa région d'origine. Et c'est M. Ablin, donc Grégory Ablin, qui a été recruté, qui est en train de prendre ses fonctions depuis la rentrée, là, comme nouvel adjoint de Mme Sandrine Simon. Voilà. Merci beaucoup, Grégory. Et il y a un secrétariat, une personne qui est... voilà, la structure de la direction diocésaine, c'est la directrice diocésaine, l'adjoint, et une secrétaire à mi-temps. Mi-temps, voilà. Et administrativement, la direction diocésaine est à Auch. Mais il y a une antenne ici, et ils sont ici, à tout ce qui se passe dans nos écoles et dans le diocèse. Voilà. Merci Grégory encore. Ça va ?
Oui. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, merci à chacun.